Question d'islam par Ghalib Ben Cheikh. Aujourd'hui, nous parlons de l'ordre Almohad, de la dynastie des Almohad. Qu'est-ce que c'est que cette dynastie? Qu'est-ce que c'est que cet état Almohad aussi? Avec Mehdi Gwirgat. Alors, bonjour Mehdi Gwirgat. Merci de nous faire l'amitié de venir.
Bonjour Ghalib Ben Cheikh.
Merci. Je dis que vous êtes maître de conférence à l'université Bordeaux 3, l'université Michel de Montaigne, et vous êtes directeur de la section d'arabe, l'une des plus vieilles sections d'arabe en France.
C'est ça, nous nous enorgueillissons d'avoir une des plus anciennes sections dédiées aux études arabes, puisque nous nous enorgueillissons d'avoir accueilli en notre sein des personnalités aussi prestigieuses que Robert Braunschweig, Dominique Sourdel ou encore Roger Hedi Idriss.
Et vous en êtes un des continuateurs talentueux et vous présentez les choses avec beaucoup d'intelligence. Je suis très intéressé par votre ouvrage effectivement intitulé « L'ordre Almohad ». Beaucoup disent que ce sont des unitariens, je ne sais pas si c'est la bonne définition ou pas à propos d'El Mouahidoun, mais vous le rectifierez, et que sous cette dynastie, il y avait une certaine intransigeance qui est sortie comme ça, mais les choses sont beaucoup plus complexes et la réalité est autre.
Alors, Mouahidoun, cela renvoie d'abord à l'unicité divine, le Tawhid. Et Mouahidoun, c'est une façon d'invoquer, si vous voulez, une idéologie l'unicité divine. Et donc, tout à la fois, de se présenter comme, en quelque sorte, plus musulman que leurs prédécesseurs, d'établir une rupture, mais également de cantonner leurs adversaires du côté, tout ce qui n'est pas unicitariste et associationniste, c'est-à-dire du côté des mouchrikoun ou plus exactement du côté de ce qui n'est pas ou ce qui ne peut être musulman. Ça, c'est l'idéologie justificative et militante qui fut la leur, même si, comme vous l'évoquiez à l'instant, la pratique fut quelque peu plus différente, plus complexe et bien entendu, ils ont été un peu comme leurs prédécesseurs enclins au compromis.
Bien alors, globalement, cet ordre-là, les Almohades ont régné, si on tient compte du fondateur, mais en réalité, il vaut mieux peut-être parler plutôt de son disciple, mais globalement, dans la version large, sur la fresque historique, c'est 1120-1269, et donc ils ont régné plus d'un siècle.
C'est ça, on peut établir plusieurs dates, des dates butoirs qu'il faut garder à l'esprit. 1120, c'est le début de la mission prophétique d'Ibn Tumart. Ibn Tumart est un berbère du sud du Maroc, donc qui va devenir la figure charismatique, mythique, la figure de référence de ce mouvement. Mais plutôt, il faut retenir la date de 1147, moment où les Almohades s'emparent de Marrakech. Et aussi, on aurait pu retenir 1146, moment où Séville, donc la capitale d'Al-Andalus, la péninsule ibérique, donc sous domination musulmane, prête allégeance aux Almohades. Et donc les Almohades sont donc à ce moment-là, surtout 1150, unification de l'ensemble du Maghreb, 1160-1170, unification de sous bannière Almohade, donc maghrébine, de l'ensemble de ce qui reste à ce moment-là d'Al-Andalus. Et donc, on peut retenir que, à partir de la seconde moitié du XIIe siècle, les Almohades vont réussir l'exploit, qui ne sera d'ailleurs plus jamais réédité, d'unifier l'ensemble de l'Occident musulman, de la Libye, ce qui est aujourd'hui la Libye, au nord, jusqu'à l'océan Atlantique à l'ouest, et jusqu'à l'Èbre et au Tage au nord, en péninsule ibérique.
Alors, Mehdi Gwirgat, l'intérêt de votre travail est d'une grande importance historiographique, ça c'est vrai, mais aussi c'est pour dire que pour la première fois dans l'Occident islamique, au Maghreb, il va y avoir un État, avec un cérémonial aulique, et alors que les sociétés étaient plutôt, permettez-moi l'expression, acéphales en réalité au niveau politique. C'est-à-dire, il y avait des petites communautés, on va revenir peut-être sur la dynastie almoravide qui avait précédé. Qu'est-ce qui justifie à la fois votre intérêt à vous, votre recherche, et puis on verra un peu la genèse de la fondation de cette dynastie?
Ce qui a prévalu, donc, à ma volonté d'écrire cet ouvrage, c'est le fait que le Maghreb au XIe, XIIe siècle constitue un cas, je crois, assez unique, où on passe dans un laps de temps relativement bref, quelques dizaines d'années, quelques décennies, d'une société relativement acéphale, où ce sont les communautés villageoises, ce sont les clans lignagés qui dominent le territoire, donc des relations de pouvoir que je qualifierais plutôt d'horizontales, à un état pyramidal, avec un souverain, des fonctionnaires, une daoula, au sens étymologique de terme, c'est-à-dire des personnes qui gravitent autour d'un souverain, fonctionnaire de tous ordres, lettrés, gens de lettres, mais aussi gens de sabre, c'est-à-dire des mercenaires, des personnages étrangers à cette société du Maghreb, qui viennent donc employer pour assurer la sécurité du prince, mais aussi pour faire acquitter l'impôt aux sujets maghrébins, ce qu'ils n'avaient jamais fait jusque-là, ou presque.
Alors maintenant, revenons à la genèse de cette formation, en tout cas de cette dynastie et de cet état. Le mot daoula est un peu problématique, parce que ça renvoie à la fois à la dynastie, ça renvoie maintenant à l'état moderne. Le Mahdi s'est fait passer pour le bien guidé, le Mahdi, vous avez dit même une mission prophétique, d'Ibn Tumart. Faisons connaissance avec l'homme. Quelle est sa formation? Alors, il y a son village, sa région, Tinmal, mais en dehors de ça, quelle est sa trajectoire de vie?
Alors, sa trajectoire de vie, bien sûr, elle est empreinte de mystères, parce que bien entendu, on a réécrit et reformaté son histoire en fonction des besoins du moment, et ces besoins-là, ils ont évolué. Alors, c'est un berbère du sud du Maghreb, originaire du village d'Igiliz des Herra, donc dans la région de Taroudan, dans l'anti-Atlas, village qui est aujourd'hui fouillé par Jean-Pierre Van Stevel et Abdullah Fidli. Et qui va, étant donné que l'arabe est à ce moment-là peu diffusé au Maghreb et qu'il n'y a pas véritablement de formation digne de ce nom au Maghreb occidental, eh bien, il va se rendre en Orient, peut-être en Andalous, on ne sait pas vraiment, en quête de savoir. L'italab l'ilm, c'est-à-dire qu'il va se rendre certainement en Égypte, mais également dans les lieux saints de l'islam, pour parfaire ses connaissances en arabe et dans ce qui est la culture classique, culture qu'on définit sous le terme de adab, c'est-à-dire de la grande culture avec un C, et peut-être, mais c'est une question qui est sujette à caution, également en Irak, où il aurait, et j'emploie bien le conditionnel, rencontré le très célèbre philosophe Al-Ghazali.
Oui, je voulais revenir simplement sur le mot adab. Pour certains, de nos jours, c'est, même s'ils n'y renvoyaient pas directement, ce serait une forme d'humanisme, d'humanité au sens connu des lettres. Et donc l'adib était plutôt l'humaniste à ce moment-là.
Oui, c'est-à-dire celui qui est capable tout à la fois de manier la langue arabe avec brio, avec maestria, mais aussi de mobiliser toutes les connaissances de son temps, mais également quelqu'un de policé, c'est-à-dire au sens également étymologique du terme en français, quelqu'un qui procède de la grande cité et qui gravite aussi autour des cercles du pouvoir, et donc celui qui invente une culture lettrée, une culture de cour, et on généralement l'historiographie accorde la paternité du terme qui fera ensuite fortune à Ibn Qafah, c'est-à-dire dans les années la première moitié du 8e siècle.
Oui. C'est un grand personnage qui mérite à lui seul une émission ad hoc. Et j'ai même entendu que l'adib pourrait être rendu en français par le gentilhomme musulman, l'espèce. Alors, continuons à faire connaissance avec donc le fondateur au niveau des idées, et même il revient finalement.
Alors, il revient dans ce qui est l'Occident de l'islam, auréolé désormais de cette culture lettrée, parce qu'on ne pouvait être considéré comme un grand lettré, un lettré de renom, que dans la mesure où on effectuait ce voyage en Orient, ou à minima en Al-Andalus, c'est-à-dire au nord du Maghreb, il revient et là, prenant bonne note du caractère, selon lui, impie du pouvoir almoravide, eh bien, il va décider de rompre graduellement avec ce pouvoir et de se constituer une base partisane. Et donc, il va, dans une certaine mesure, revenir sur ses terres et jouer, si vous voulez, de l'esprit de corps, ce qu'on appelle l'asabiyya. Donc, l'asabiyya, donc l'esprit de corps de ses contribuables, de ses congénères berbères, masmouda. Donc les masmouda sont un des grands peuples berbères, probablement majoritaires d'un point de vue démographique à ce moment-là au Maghreb. Et là, si vous voulez, il va marcher sur ses deux pas. C'est-à-dire tout à la fois, il va invoquer la culture savante, lettrée, celle au bout du compte qui a été, qui est issue du creuset abbasside, mais aussi il va invoquer et utiliser un substrat berbère, un substrat autochtone, un substrat maghrébin, si vous voulez. Et donc, il va commencer à inscrire la grande histoire de l'islam. Il va vouloir y inscrire le Maghreb. C'est-à-dire que le Maghreb était resté jusque-là une entité plutôt marginale, plutôt périphérique. Et donc, à ce moment-là, eh bien, en faisant du peuple maghrébin un peuple prêtre, un peuple élu, en jouant sur la tradition prophétique concernant les Ghuraba, donc les étrangers, un terme ésotérique, peu clair par définition, eh bien, il va vouloir...
Qui d'ailleurs a la même racine que Maghreb.
Voilà, donc, c'est justement sur ce fait-là qu'ils ont joué, si vous voulez, et en utilisant notre hadith, donc qui invoquerait...
Hadith étant un aphorisme du prophète.
Voilà, un aphorisme du prophète, une tradition. Et donc, en invoquant cette tradition-là, il a voulu, eh bien, inscrire les Maghrébins dans la continuité de ce qui avait été le peuple prêtre par excellence, c'est-à-dire les Arabes, donc les Arabes avec un prophète de l'islam arabe qui avait évolué dans un contexte arabe avec un texte sacré en langue arabe. Et bien désormais, vous avez un peuple, les Maghrébins, et bien des Ghuraba, des Helghrb, des gens de l'Occident. Et bien c'est pour cela que la langue qu'il utilise n'apparaît pas dans les textes sous le terme de langue berbère, mais de langue occidentale. Les Sel-Gherbi, c'est-à-dire langue de ces Ghuraba, de ces Hel-Gherb, donc de ces, eh bien, de ce peuple de l'Occident musulman. Et donc, si vous voulez, il va, c'est là, je pense, la clé de son succès, c'est tout à la fois inscrire les Maghrébins dans la grande histoire de l'islam, mais également, il va jouer sur le ressentiment des populations, parce que pour la première fois, en cette première moitié du XIIe siècle, les Maghrébins subissent tout le poids de la dynastie État des Almoravides, donc ils commencent à faire payer l'impôt, qui commencent à strier l'espace de forteresses, donc ils imposent une loi nouvelle, de cités qui pour la première fois sont dotées d'enceintes, c'est-à-dire que vous avez une différence entre cité et le plat pays, le bédia, au sens large du terme.
Une sorte de campagne, de bédouinité.
Exactement. Où y a, et donc, vous avez pour la première fois une dichotomie entre espace urbain, donc où on applique en fait un modèle d'État, un modèle de société qui est une importation à ce moment-là, qui est vécue en tant que telle et qui est une importation provenant d'Al-Andalus, et si vous voulez, un espace rural qui est encore régi par les lois de la tribu berbère ou dominé toutes sortes d'autres référents.
Permettez-moi, Mahdi Kouikret, de venir sur un mot. À juste raison, vous avez parlé de la langue. Alors, chez certains, le fait de dire que le Coran était en langue arabe, ici, peut-être le mot arabe renvoie simplement au fait que ça soit éloquent, manifeste, ce qui est le sens même du mot, ou clair, ou bien explicite. Et alors que notre ami, si je puis dire, Ibn Tumalt, lui, c'est d'avoir mis en avant une sorte de koiné, une francalingua, comme on dit, une langue un peu au-dessus, mais tenant compte à la fois du berbère et éventuellement matinée de quelques mots arabes.
Alors c'est un moment clé, un moment charnière, car cette langue occidentale reprend ce qui, d'un point de vue syntaxique, d'un point de vue morphologique, eh bien, est une langue berbère qui est apparentée en fait à la langue qui est parlée aujourd'hui dans le sud du Maroc actuel, le Tachilhit. En revanche, tout le champ lexical et qui a trait au religieux, tout ce qui est de l'ordre religieux, à commencer par le nom de Dieu lui-même, eh bien, est emprunté à l'arabe. C'est là une différence majeure avec les, ce que l'on sait, et encore le, nos connaissances sont lacunaires sur le sujet, avec les expériences d'islam berbérisé telles qu'on les connaît, celle donc d'Ebarrawata ou bien du nord du Maroc, la religion de Hamim, ou encore les différentes expériences kharijites, donc remis au goût du jour grâce à l'équipe de Cyril Ayé notamment.
Enfin, les kharijites, c'est-à-dire les sécessionnistes ou les sortants qui ne sont ni chiites ni sunnites.
C'est ça, voilà. C'est une des trois grandes tendances, j'ose pas employer le mot de chiisme,
d'obédience,
voilà, l'islam, longtemps dominant au Maghreb central et oriental, hein, à partir des 8e, 9e siècles, et où, par exemple, le nom de Dieu était connu sous le nom de Yakush, qui est en fait la traduction littérale du mot arabe Al-Mu'ati, ou Al-Ma'ati, les deux existent, c'est-à-dire celui qui procède à un don. Et alors que là, clairement, les Almohades, eux, emploient plutôt le nom de Dieu Allah ou bien Rabb,
le Seigneur. Bon, on s'est beaucoup attardé sur le fond, en tout cas l'idéologue, si je puis dire, mais en tout cas cette vision millénariste, cette vision du mieux guidé, du bien guidé, du Mahdi. Et quel est le lien avec son disciple, donc, Abdelmoumen? Comment les choses vont se faire? Et puis, un aspect anecdotique, si vous voulez bien, Mahdi Kouirket, c'est le fait peut-être qu'après sa mort, on voulait pas l'annoncer, on rapporte, mais c'est vous qui, je le dis sous votre contrôle, qu'on l'a laissé pendant 2 ans, peut-être 3 ans, sa dépouille mortelle sans l'annoncer.
Alors, Ibn Sumart avait été la personne qui avait initié ce mouvement. Il était véritablement la pierre angulaire de tout ce mouvement. Et lui, une fois disparu, après avoir connu une défaite militaire, une déroute sous les murs de Marrakech, c'est-à-dire que les Almohades avaient été incapables dans un premier temps de s'emparer de la capitale almoravide, eh bien, il va mourir assez vite. Et donc, on rentre dans une période qu'on connaît assez mal où, eh bien, vous avez des luttes entre ses disciples, c'est ce qu'il apparaît du moins, c'est ce qu'on comprend de cette époque. Et finalement, le choix est fait sur un personnage qui n'est pas du tout originaire du Maghreb occidental, mais plutôt du Maghreb central. C'est quelqu'un, il s'appelle Abdelmoumen, donc, qui est originaire, lui, de la région de Tlemcen,
de
Nedroma, à côté de Rezaouet, hein, ancien Porcé, hein, sous la colonisation française. Eh bien, parce que je pense que l'idée qui prévaut, c'est que tout à la fois le mouvement almohade, et c'est là toute l'ambiguïté et toute la nuance, s'appuie sur l'esprit de corps des clans lignagés, mais aussi est en rupture avec la société tribale. C'est-à-dire qu'il veut imposer un ordre qui est autre. Et cet ordre, et ça passe notamment par la promotion de personnages eh bien étrangers, exogènes à cette société du sud du Maroc actuel.
Oui, alors finalement, les choses sérieuses, si je puis dire, commencent en 1146-47, avec la prise de Marrakech.
C'est ça, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, finalement, après une campagne de 7 ans, les Almohades ont réussi à s'emparer bien d'une grande partie de l'ouest de ce qui est l'Algérie actuelle, s'être emparé de la région du Détroit, de Fès, de Meknès, qui sont à ce moment-là des villes extrêmement importantes au Maghreb, et finalement arrivent à s'emparer aussi de Marrakech en 1147, et on date généralement les débuts de la dynastie Almohade en cette année de 1147.
Alors, nous verrons tout à l'heure tout le cérémonial des cours, etc., ce que j'ai appelé tout à l'heure le cérémonial aulique. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons de l'ordre almohade. C'est bien de faire connaissance avec la dynastie almohade. C'est vous qui dites, est-ce que c'est 1120, 1269 ou plutôt 1147 et toujours 1269? Avec vous, Mehdi Kouirket, vous êtes maître de conférence à l'université Bordeaux 3, l'université Michel de Montaigne, et vous êtes directeur de la section d'arabe au sein même de cette université. Et c'est votre livre, L'Ordre Almohade, qui est une nouvelle lecture anthropologique de cette dynastie qui nous intéresse aujourd'hui. Quelle va être la phase ascendante de cet état Et il connaîtra quand un apogée, c'est sous quel... Alors, il y a l'appellation calife, déjà, ce qui sous-entend qu'on n'est plus le vassal du calife de Bagdad.
C'est-à-dire que pour la première fois, les Maghrébins sont autoréférencés à eux-mêmes. C'est-à-dire que vous avez une forme d'indépendance totale où l'islam est, on peut considérer qu'il est désormais complètement acclimaté au Maghreb, et l'islam devient maghrébin dans une certaine mesure, où le calife donc est le personnage central du Maghreb, et en la période d'apogée, généralement, on peut la faire correspondre à toute la seconde moitié du XIIe siècle, moment où eh bien les Almohades font la conquête d'Al-Andalus et arrivent jusque en Tripolitaine, donc à l'est de la Libye actuelle. Et il n'est pas clair, vous avez un certain nombre de prophéties, de rumeurs qui apparaissent encore dans les sources arabes médiévales, qui font état du fait que les Almohades auraient eu le projet, tout comme leur illustre prédécesseur Fatimide, de faire la conquête de l'Égypte et donc d'unifier sous une bannière maghrébine l'ensemble du monde musulman. Projet, bien entendu, qui n'aboutira pas, comme chacun sait.
Oui, il s'arrête à la Tripolitaine. Étymologiquement, c'est la région des trois grandes villes. Et puis, ils partent dans la partie septentrionale de l'État. Moi, je suis intéressé par l'intérêt que Abou Yaqoub Youssouf avait pour les sciences, les lettres et surtout la philosophie. On rapporte toujours l'anecdote que Ibn Tufayl a présenté le jeune Averroès au souverain. Et si vous pouviez simplement nous dire comment cette rencontre a pu avoir lieu et le fait qu'Averroès craignait que l'on ne s'intéressât pas beaucoup à la philosophie et il était un peu prudent.
C'est-à-dire que les Almohades ont procédé, contrairement à leur prédécesseur almoravide, d'une idéologie qui leur est propre, l'almohadisme, avec une figure fondatrice que nous avons évoquée tout à l'heure, qui est Ibn Tumert, donc qui est qualifié de Mahdi. Et donc, à ce titre, ils ont combattu ce qui avait dominé et pesé de tout son poids sur l'Occident musulman, et surtout, principalement sur Al-Andalus, c'est-à-dire le malikisme. Et en s'inscrivant à rebours et à contrario face au malikisme, eh bien, ils ont permis, c'est là une des conséquences directes de cette prise du pouvoir par les Almohades, ils ont permis l'épanouissement du genre philosophique, hein, qui jusque-là n'avait pas eu, si vous voulez, ces lettres de noblesse, on peut juste citer Avenpass, Ibn Bajjar, le maître de Saragosse, mais qui aurait été, nous dit-on sur sa fin, opprimé, empoisonné, du moins il est mort dans des conditions sordides, alors que là, les tenants d'une forme de rationalisme ancré dans cette terre de l'Occident musulman, fait fortune, fait florès, si je peux dire, auprès du souverain, qui va promouvoir les tenants de cette forme, de ce temps rationaliste de l'Occident musulman. Tout d'abord avec le personnage d'Ibn Tufayl, donc tout à la fois médecin et, on peut dire, il joue le rôle aussi de principal conseiller, car les Maghrébins, à ce moment-là, sont demandeurs de gens lettrés pour les servir, pour assurer pour le complément au centre parfait qu'eux-mêmes incarnent. Et donc, ces médecins, médecin ça veut dire aussi qui est proche, hein, qui touche, qui a le droit de toucher directement la personnalité sacrée du calife, Al-Mouad.
Et en même temps sage, c'est Al-Hakim.
C'est Al-Hakim, hein, tout à la fois, donc sage et médecin. Oui. Et donc, il va donc entretenir la cour al-Mouhad, parce que sur le modèle tel qu'il avait prévalu à Bagdad, et c'est un peu ça, je pense, et aussi également au Caire sous domination fatimide, pour être un souverain puissant, d'une grande renommée, il faut pouvoir aussi mettre à contribution les personnages les plus brillants de son époque. Et donc, Ibn Tufayl et plus jeune que lui, Averroès, vont être mis à contribution, tout à la fois pour, c'est là un aspect assez mal connu de leur ouvrage, qui a été pris un peu sans leur contexte propre, qui est celui de l'almohadisme, puisque par exemple Averroès va rédiger un ouvrage à la gloire de, on peut dire ça d'une certaine façon, d'Ibn Tumart, donc fondateur de la dynastie almohade, ouvrage qui est aujourd'hui égaré, mais également Ibn Tufayl et Averroès vont être contraints et forcés de faire une sorte de pèlerinage sur le lieu sacré de l'almohadisme, qui est Tilmel, donc situé dans le Haut Atlas occidental. Et généralement, ça donne lieu à des voyages assez cocasses, parce qu'on est obligé de s'y rendre dans ce Haut Atlas froid, neigeux, en plein hiver, sur les mois de février-mars. Et donc, ils sont contraints et forcés à passer sous les fourches codines de l'almohadisme et à faire allégeance à cette idéologie almohade, incarnée dans la personne du calife. Mais en contrepartie, eh bien, ils peuvent, si vous voulez, briller de tout leur feu et ne pas subir, du moins dans un premier temps au moins, les foudres d'un pouvoir qui les aurait contraints et forcés à se placer sur le terrain de l'hérésie.
Oui, alors comme vous avez latinisé Averroès, faisons-le pour Ibn Tufayl, Abou Bekr, Abou Bessel des latins. 1100 Cadix, il est né à Cadix et puis il mourra en 1185. Et après, donc, le successeur d'Abou Yaqub Youssouf, ça sera Abou Youssouf Yaqub, et c'est lui qui, Al-Mansour, connu comme tel, va porter encore le fait, arrivera au fait de la dynastie almohade.
Tout à fait. Alors, les modalités dans lesquelles Ibn Tufayl aurait présenté Averroès, Ibn Rushd, est tout à fait singulière parce que vous avez, on a trace de conversations de haut niveau où le calife almohade, pour la première fois, on a des maghrébins qui sont capables d'évoquer avec brio les conceptions aristotéliciennes, mais aussi platoniciennes. Eh bien, on lui aurait présenté un Averroès tout intimidé de pouvoir rencontrer le calife. Et le calife lui aurait posé une question piège, si je puis dire, sur le caractère créé ou incréé du ciel. Et celui-ci aurait cherché, pardonnez l'expression triviale, à botter en touche, donc à noyer le poisson dans l'eau. Et finalement, Ibn Tufayl l'aurait rasséréné en lui signifiant que ici il pouvait parler en toute clarté, en toute franchise, et exposer donc ses théories et ses conceptions, et lui-même, le calife, ajoutant ce que lui-même en pensait. Donc vous voyez, on entre dans une période où on a des souverains, donc qui sont également, comme l'avaient été en leur temps, les souverains abbassides, aussi célèbres que Maimoun et d'autres.
813-833, donc la maison de la sagesse.
Qui est considéré comme le calife abbasside par excellence, eh bien, qui sont capables de répondre et de donner le change, eh bien, aux principaux tenants de cette pensée rationnelle, rationaliste, au sein de l'Occident musulman médiéval.
Oui, ça fait pièce à l'idée que en tout cas la dynastie almohade était celle des fanatiques, refermés sur eux-mêmes. Avoir le calife qui parle de l'éternité du monde, vous avez parlé du ciel créé et incréé, parler philosophie avec une telle liberté, puis encourageant des philosophes à vouloir, et notamment, paraît-il, lui avait même enjoint de traduire l'œuvre aristotélicienne, montre que lorsque le souverain est lettré, il va y avoir par la suite une sorte de mécénat d'État pour encourager l'acquisition du savoir, de la connaissance, les arts et les belles lettres.
Alors ce mécénat se joue à plusieurs niveaux. Tout d'abord le fait que l'État al-Muhad, j'emploie l'expression État à dessein, oui, eh bien, a implanté pour la première fois au Maghreb une institution créé sous les Seldjoukides, donc en Orient, en Irak, par Nidam al-Mulk, donc qui est celle de la Madrasa.
Nidam al-Mulk étant un vizir qui finalement va fonder
oui,
les différentes Nizamiyas.
C'est l'homme fort du régime Seldjoukide, la cheville ouvrière de cette dynastie d'origine turque. Et donc, en Occident, comment cela se traduit? La création d'un collège, c'est ainsi qu'on rend généralement en français l'expression madrasa, un collège qui, donc, emploie, si je puis dire, embauche les sommités, le nec plus ultra des penseurs de l'Occident musulman, généralement ce sont des gens originaires d'Al-Andalus, où on leur donne un savoir tout à la fois en langue arabe, on apprend les rudiments du Coran, on commence à s'initier, eh bien, à tout ce qui a fait le, ça a constitué l'adab, donc la culture avec un grand C, avec un C majuscule. Mais aussi, on leur donnait un savoir pratique, on leur apprenait aussi à monter à cheval, à manier le javelot, et vous aviez même des bassins, dont notamment le fameux bassin de la Ménara, que l'on peut toujours admirer à Marrakech.
La naumachie.
Non, pas exactement, parce que généralement, parmi les postes de gouvernement, on donnait souvent le poste, par exemple, de Wali, de gouverneur de la région du Détroit, et pour ce faire, il fallait absolument maîtriser les techniques de combat sur mer, et donc s'initier aux stratégies où on utilisait différentes sortes d'embarcations, stratégies extrêmement complexes, à mettre en œuvre. Donc la mise à contribution des meilleurs dans les différentes branches du savoir, dans les différentes branches du ilm, eh bien, fait sens, hein, parce que vous avez un projet, et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, extrêmement cohérent, assez systématique. Du moins, on n'avait jamais connu en Occident musulman un projet aussi global, aussi large, capable de complètement transformer, changer la société, et d'une façon radicale et quasi irrémédiable. Un point tel que on a un Maghreb qui est largement, si j'osais, je dirais, transfiguré. Un point tel que l'on connaît finalement assez mal, le stade antérieur, l'état antérieur.
Alors, avant d'arriver au point d'inflexion et des liens, des contacts, et notamment avec les royaumes du Nord et les royaumes chrétiens, continuons encore un peu dans ce cérémonial aulique et ce prestige. L'apparat, le décorum de l'État almohade, la manière dont le calife s'habillait, comment on en mettait, là aussi vous me pardonnez une expression prosaïque, plein la vue à ceux qui venaient, parce que la personne même du calife était sacrée.
Alors tout à fait, d'abord il faut dire que le but, l'objectif poursuivi par les califes était de se distinguer, de se démarquer, radicalement de leur sujet, ça coule de sens, mais également des autres membres de l'élite dirigeante. Pour ce faire, ils disposaient de toute une panoplie. Tout d'abord, vous avez un retrait du prince. Désormais, le prince se fait évanescent, c'est-à-dire qu'on l'aperçoit plus, par exemple, au grand banquet. Vous savez, les banquets, connus généralement sous le nom de SMS, par exemple, en berbère, étaient des moments où on resserrait les rangs, où on consolidait, on fortifiait l'appartenance à un clan, et dans le but généralement de faire la guerre. Et bien là, vous avez un souverain qui disparaît de table, qui devient un souverain qui nourrit, mais qui n'apparaît plus. C'est-à-dire on rentre dans une conception non plus de don contre don, mais là, vous avez un don total, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rendre avec des plats absolument somptueux, magnifiques. Hein. Vous avez, je donne la liste d'un certain nombre de plats où rentre en composition une quinzaine de viandes, par exemple, avec force épices, des couleurs, des mélanges sucrés, salés. C'est-à-dire que vous avez en bouche un goût auquel vous ne vous attendiez pas, hein, donc qui est basé sur la surprise au niveau de la palette gustative et aussi chromatique. Mais également, vous avez bien entendu aussi tout ce qu'on appelle le diraz, qui est donné aujourd'hui en maghrébin draz, par exemple. C'est-à-dire des ateliers qui habillent le calife et les gens de sa cour et de l'élite dirigeante d'une façon tout à fait sublime, extraordinaire, avec des soieries, avec des tissus jusque-là jamais vus, parce que ce qui anime cet état almohade, qui encore une fois a eu la passion de la hiérarchie, de la distinction, eh bien c'est le souci d'apparaître, de se placer du côté du fabuleux, de l'extraordinaire,
du merveilleux,
en créant de toutes pièces, notamment à travers les palais, les jardins, un Éden réalisé. C'est-à-dire que le calife est jugé à l'aune de sa capacité de créer sur terre une sorte de paradis.
Et donc, l'État almohade va se distinguer aussi par ses réalisations architecturales et tous les édifices architecturaux propres à cette dynastie et dont nous avons jusqu'à présent des monuments qui défient l'éternité.
Au moins, on peut citer les trois mosquées, donc celle de la Koutoubia à Marrakech, sur laquelle il y aurait beaucoup à dire, sur la tour Hassan, donc à Rabat, et également la Géralda à Séville, donc les trois monuments emblématiques auxquels on songe quasi immédiatement par réflexe quand on évoque ce passé almohade. Et donc, mais également à travers la construction de palais qui dédoublaient le centre urbain, c'est-à-dire que par exemple à Marrakech, et créer de toutes pièces un palais contingent à la ville plébéienne, à la cité plébéienne, qui est conçu comme, comme non pas comme un palais, mais comme une ville en soi, sur le modèle, si vous voulez, Omeyyade Cordoue Medinet al-Zahra, donc le palais Omeyyade construit au Xe siècle, autant les Omeyyades prétendent eux-mêmes au califat, vous voyez, c'est ce modèle-là qui joue à plein.
Le fameux califat d'Occident et Al-Zahra, étymologiquement, l'illuminée, l'étincelante, la fleurie, enfin tout ça à la fois. Mehdi Kouilkat, je voulais pas vous interrompre, je voulais simplement revenir sur cette idée fondamentale du souverain qui donne, mais qui finalement se dérobe au regard derrière un hijab, d'où le hajib, une sorte de chambellan. C'est pour laisser encore dans cette volonté de mettre en avant tout l'aspect dispendieux au niveau de la nourriture, mais aussi de l'apparat et de ce cérémonial aulique, pour que la personne même du souverain ne soit pas si galvaudée que ça.
C'est ça, c'est-à-dire que la façon de se rendre rare, quasi invisible, y compris dans le lieu de visibilité par excellence qui était la mosquée, où les Almohades ont pour la première fois, disposé d'une palissade qui s'abattait de façon automatique par mécanisme, par haraka hindesia, si vous voulez. Donc on appelle la maqsoura, donc qui est une palissade de bois dont il nous reste certains exemples encore aujourd'hui, notamment à Tlemcen. Vous aviez une palissade de bois qui, au moment, vous voyez tout l'effet quasi de théâtre, un effet de scène, où apparaît le calife, vous avez une palissade qui s'abaissait pour retrancher le calife à la vue de ses sujets. Et je dois dire que sur un autre plan, le propre de ce califat d'Occident, c'est véritablement que le calife doit apparaître comme le maître des stocks. C'est-à-dire que dans une société où, en prévision de la disette, de la famine qui frappait de façon épisodique les sujets maghrébins, ou bien dans le cas d'une société où on était obligé toujours d'emmagasiner, de stocker la racine, on va reparler de la racine khazana qui a donné mahzan, aujourd'hui magasin dans les langues occidentales, le calife est de loin celui qui dispose des stocks les plus importants, des stocks de céréales, c'est-à-dire qui assurait à la possibilité des gens qui gravitaient autour du centre, c'est-à-dire autour du calife, la possibilité de passer sans encombre les temps de la soudure ou des temps de disette, des temps où on ne mangeait pas généralement à sa faim, mais également des stocks en chevaux, en mulets, également, je l'ai mentionné tout à l'heure, en habits somptueux. Cette possibilité d'être vraiment non plus le premier parmi ses semblables, le primus inter pares, tel que l'avaient été les princes berbères durant toute la période des 8e, 9e, 10e siècle, mais véritablement un calife, c'est-à-dire le premier véritablement sans commune mesure avec ses sujets.
Oui, en vous entendant parler du maître du stock, je ne m'empêche pas de réfléchir à l'idée de favoriser les techniques dites de poliorécétiques, c'est-à-dire à la fois des sièges contre les villes à soumettre, mais aussi de pouvoir résister à un éventuel siège si on en est soi-même victime. Et ça, c'est quelque chose qui a caractérisé l'État almohade.
Oui, notamment, c'est une... généralement, les sources sont peu prolixes sur les techniques de siège, mais on généralement considère que, par exemple, les Almohades ont été les premiers, notamment lors du siège de Gafsa, donc en Tunisie actuelle, dans les années 1170, 1176, si ma mémoire est bonne, à utiliser des tours de siège, à utiliser notamment aussi massivement des mangonaux, mjaner, donc toutes sortes de... c'est aussi donc un savoir qui doit donner, s'il veut être puissant, dans l'innovation technologique et également l'innovation technologique, j'ai envie de dire hier comme aujourd'hui, du côté de la force, du côté du militaire. C'est-à-dire que les almohades se sont aussi imposés, dans, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans leur capacité à mettre à contribution les intelligences les plus remarquables de leur époque, notamment au service de l'armée.
Alors, nous sommes sur France Culture, dans l'émission Questions d'Islam, avec le professeur Mahdi Kouirkek. Vous êtes en réalité maître de conférence à l'université Bordeaux 3, l'université de Michel de Montaigne, et vous êtes directeur de la section d'arabe, et nous parlons de l'État almohade, de la dynastie des almohades, du calife, du califat almohade. Et dans cette dernière partie de l'émission, je voudrais, avant d'amorcer le déclin, dire d'abord, pour étendre leur férule et unifier toutes ces tribus-là, le calife Al-Muhad va mater une rébellion au tournant du XIIIe siècle, en 1202, dans l'Ifriqiya. Enfin, à l'époque, c'est qui donnera son nom à l'Afrique, mais à la Tunisie actuelle. Et notamment, vous avez parlé de Gafsa, mais il y a Tunis aussi.
Tunis est un des centres de l'État almohade. C'est-à-dire que plus que leurs prédécesseurs, plus que jamais, l'État almohade a été un État centralisateur, hein, c'est-à-dire centré sur la personne du calife et sur sa capitale Marrakech. Mais n'oubliez pas que nous nous situons dans une période éloignée, le Moyen-Âge, où bien entendu les communications sont malaisées, plus ou moins. Et donc on est obligé de déléguer. Pour tenir le territoire, vous avez besoin d'une qaïda, vous avez besoin d'une base que constituent les villes. Et c'est à ce moment-là, donc au XIIe siècle, que pour contrôler les l'Ifriqiya, on choisit, hein, on fait le choix de Tunis, parce que Tunis possède l'avantage de se retrouver en position littorale, sur la côte, et donc de d'être l'interface directe à ce qui est en train d'émerger comme les puissances majeures, du moins d'un point de vue économique, mais aussi maritime, de l'espace de l'Europe occidentale, c'est-à-dire les cités-états italiennes, notamment la ville de Pise. Et j'ai eu l'honneur de participer au projet de Pascal Burezi, qui vise à la traduction des lettres échangées entre Pise et la Tunis sous gouvernement almohade. Eh bien, Tunis joue ce rôle fondamental, tout à la fois bien de contrôle de l'espace ifriqien, donc de l'espace du Maghreb oriental, mais aussi de contrôle d'interface, d'échanges plus ou moins bien contrôlés, plus ou moins bien régulés, suivant les époques, avec notamment la ville de Pise.
Oui, alors on progresse là, on avance dans le temps, il va y avoir à un moment donné une sorte de coup d'arrêt à la suprématie almohade et qui vient tout particulièrement du nord de l'Andalousie. On a déjà une date pour ça, la fameuse date de 1212 de la bataille de Las Navas de Tolosa, immortalisée d'ailleurs à ce sujet par un peintre, Francisco de Paula Van Halen. Et je ne sais pas comment il a pu dessiner exécuter cette toile, mais on montre l'interaction qu'il y avait des deux armées, et c'est en date, et c'est vous qui allez le confirmer ou pas, Mahdi Kouirkek, que c'est à partir de ça que finalement l'ordre almohade va être battu en brèche.
Alors je vais vous faire une réponse de Normand, ou de Gascon plus exactement, pour ce qui me concerne. Oui et non. Oui et non, parce que, évidemment, étant donné que les almohades sont le califat d'Occident, rentrent en ligne de mire, en considération, bien entendu, le pouvoir du rapport, la question du rapport de force avec les puissances chrétiennes, notamment avec la Castille, mais aussi le Portugal, l'Aragon, et les cités-états italiennes, qui sont les tout à la fois les principales ennemies et le cas échéant, notamment c'est le cas pour la monarchie du Léon, léonaise, qui sont parfois les bien les alliés de circonstances de l'État almohade. Et donc 1212, c'est généralement la date qu'on retient pour ce, si vous voulez, ce point de rupture, de bascule voilà. entre les équilibres en Andalous. Même si véritablement, eh bien, c'est plutôt les années 1220 qui marquent cette rupture des équilibres, parce que à partir de là, eh bien, désormais, l'État almohade va lui-même sous le fait de dissidences nombreuses, eh bien, va se fractionner. Et du moment où vous n'avez plus de front uni face aux différentes monarchies du nord de la péninsule ibérique, eh bien, vous avez une capacité de résistance qui est tout à fait amoindrie. Néanmoins, je voudrais faire remarquer que jamais, eh bien, les almohades n'ont été en mesure, et ces signes, là encore, n'oublie pas que nous sommes en pleine période de croisade, pour resituer ces événements dans leur contexte, eh bien, de faire face à un front uni chrétien. Et c'est ce qui passe avec Las Navas de Tolosa, le Uqab.
Oui, donc Husna al-Uqab.
Voilà, et non pas l'Iqab, hein, le châtiment. Eh bien, à partir de là, eh bien...
C'est le donjon de, j'ai jamais su, homenaje, on dit en espagnol, de l'hommage, mais je comprends pas pourquoi on n'avait pas traduit comme il faut le donjon. Alors, comment vous l'auriez traduit, Husna al-Uqab? C'est le faucon, l'aigle.
Oui, c'est ça. Mais donc le Uqab, ça renvoie en fait aux collines, hein, c'est oui. ça. Vous voyez, c'est juste un toponyme qui, eh bien, au sens voilà relativement neutre, qu'on a certains ont voulu y voir le transformer comme c'était usuel déjà dans les sources arabes médiévales et jusqu'à aujourd'hui dans un certain sens, un sens autre, dans le sens de Iqab, c'est-à-dire de châtiment, comprenez par là de châtiment divin qui a voulu que les chrétiens triomphent bien des forces musulmanes. C'est à ça.
Rappelons simplement que c'est dans la province de Jaén maintenant.
Tout à fait.
Bon, donc du coup, pour vous, Mahdi Kruiket, c'est le point à la fois d'inflexion en quelque sorte.
Du moins, c'est comme ça que ça a été retenu dans l'historiographie traditionnelle. D'accord. Mais je pense que c'est plutôt les années 1220 qui marquent, avec le, si vous voulez, le fait qu'une partie des gens d'Al-Andalus vont se séparer du pouvoir maghrébin, hein, vont vouloir vraiment établir une rupture, eh bien que ça va marquer une avancée, qui est une avancée pour le coup irrémédiable, des forces coalisées ou pas coalisées, chacun dans son coin, du Portugal, de la Castille et également de la monarchie aragono-catalane.
Alors comment on va tenir comme ça jusqu'à le point final, c'est-à-dire, ce sont les Mérinides qui vont mettre fin à ça ou... Jusqu'en 1269, comment on va vivre le califat almohade?
Alors, je crois que là, il faut bien différencier l'aspect strictement politico-militaire d'une part, et d'autre part, l'aspect religieux. Parce que d'un point de vue politico-militaire, certes, alors il faut parler d'un mot des Benu Hillel, donc des Arabes bédouins.
Les Arabes oui.
Donc, puisque ce sont les Almohades qui, pour tenir le plat pays, et encore une fois, le Maghreb est une société qui n'avait pas l'habitude d'être gouvernée, ils ont amené des personnes extérieures à la société segmentaire du Maghreb, que sont donc des Arabes bédouins, pour maintenir l'ordre dans les plaines, donc et à proximité des villes névralgiques pour l'État almohade. Et donc c'est une, si vous voulez, d'une part ce sont les Mérinides, donc nouveau mouvement, nouvelle dynastie qui apparaît aux confins de ce qui est aujourd'hui l'Algérie, le Maroc. Dans les années 1230-1240, définitivement, c'est le temps où il s'impose.
Fès est prise en 1244.
C'est ça, oui. C'est ça. Et ensuite, 1248, de façon définitive, parce qu'il y a eu deux temps, au moins trois temps, de prise de Fès. Et désormais, un nouveau pouvoir qui s'installe à Fès et qui a voulu rompre avec le passé almohade. Mais c'est un passé tellement omniprésent, eh bien qu'ils ont bien repris un bon nombre des formules bien adoptées en leur temps par les Almohades. Et je disais qu'il fallait dissocier l'aspect religieux parce que il apparaît désormais dans les sources. C'est une question âprement débattue entre spécialistes, mais que l'almohadisme en tant que religion, qu'idéologie, va être, si ce n'est dominant, longtemps très présent et va marquer au fer rouge en fait l'islam dans ce qui est le Maghreb actuel. Et pendant 2-3 siècles, on considéra encore Ibn Tumart comme le personnage clé, le personnage le plus important dans ces régions, et avec un centre de gravité qui est Tinmel, qui va demeurer encore pendant des siècles centre de pèlerinage. Donc vous avez une vie almohade, d'un point de vue religieux, d'un point de vue du sacré, longtemps, bien longtemps après la chute de Marrakech en 1269.
Oui, alors nous approchons du terme de l'émission et je regrette vraiment pour ma part de n'avoir pas abordé, mais peut-être que vous, si vous voulez bien, vous allez y revenir, pour parler des aspects dits d'intolérance de l'ordre almohade et qui est souvent mis en avant par ce qui a pu endurer à la fois à Véroès, le fait que Maïmonide était contraint de s'exiler, de partir en Égypte. Vraiment, quelques mots, qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus ?
Alors, c'est aujourd'hui, et je m'inscris cela dans la continuité de l'ouvrage des œuvres de Maribel Fierro en Espagne, eh bien, l'almohadisme s'est voulu, comme l'islam en son temps, du temps de sa genèse, eh bien, comme une forme de monothéisme total, englobant,
intransigeant,
c'est-à-dire qu'il n'a plus accepté tout ce qui avait existé. C'est-à-dire que jusque-là, au Maghreb notamment, vous aviez une société multireligieuse, vous aviez diverses religions qui étaient là, vous avez le khalijisme, le chiisme, mais aussi le judaïsme, les formes islamisées de l'islam, aussi encore quelques communautés chrétiennes. Et bien à partir de cela-là, l'islam, sous sa forme al-muhad, s'est voulu comme englobant et mettant en terme à travers son personnage à qui il fallait prêter allégeance, donc Ibn Tumart, qualifié pour le coup de Mahdi. Et désormais, pendant un siècle et demi, notamment, les communautés juives vont disparaître et on ne parlera plus dans les sources arabes que de juifs islamisés. C'est ainsi qu'ils apparaissent dans les sources. Quant à Maïmonide, je m'empresse de rappeler que probablement dans sa jeunesse, c'est ainsi que s'est présenté chez Maribel Fierro, eh bien, il a peut-être adhéré, lui, à un certain nombre de ses congénères, à l'idéologie almohade, qui apparaît comme attractive, et notamment, vous avez le père de Maïmonide, Rabbi Maïmon, qui a été obligé d'écrire un certain nombre de responsa, aux juifs maghrébins tentés par la conversion à l'almohadisme. Et dans un premier temps, Maïmonide, eh bien, il se rend non pas en Orient, mais à Fès. C'est-à-dire un des points nodaux cruciaux de l'État almohade, qu'il a sans doute servi avant de déchanter et d'être conduit à s'exiler.
Alors, Mahdi Gouirkat, nous aurons à revenir assurément à toutes ces questions. L'esponsa, ça me fait penser au fatwa, c'est dans l'étymologie même du mot. Alors, nous arrivons effectivement au terme de cette émission. C'était question d'islam. Aujourd'hui, nous avons reçu Mahdi Gouirkat, maître de conférence à l'université Bordeaux 3, Montaigne. Et vous êtes directeur de la section d'arabe au sein de cette même université, Michel de Montaigne. Et nous avons parlé de l'ordre almohade. Nous n'avons pas épuisé le sujet. Si nous devions parler même des supplices infligés à ceux qui rompaient l'allégeance faite au calife, ça prendrait encore une autre émission, mais nous ne voulons pas finir sur des considérations scabreuses. Merci de nous avoir édifiés. Merci de nous avoir instruits sur cette dynastie, sur ce califat méconnu qui a régné en Andalousie et au Maghreb actuel, en tout cas, depuis la Tripolitaine jusqu'à l'Atlantique et de la partie subsaharienne jusqu'à la partie septentrionale, vous avez parlé de l'herbe. Merci. Chers amis auditeurs, vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attachée d'émission est Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Manuel Couturier et la réalisation est toujours assumée par l'ami Franck Lilin.